à un moment, je relayais cette étude qui disait qu'il faudrait planter 25 000 km de haies par an d'ici 2050, que les acteurs sur le terrain en parvenaient à en planter 3 000 ou 4 000 par an. Maintenant, on sait depuis avril dernier que ce n'est pas 11 000, mais c'est 23 000 km de haies qui continuent d'être arrachées ou qui dépérissent par an. Je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter à juste passer cette info à des gens assis sur leur canapé et leur dire, bah, ça y est les gars, j'ai fait mon boulot, je vous ai transmis l'info, maintenant à vous de jouer. Et on voit au milieu de l'horizon ces quelques alignements d'arbres qu'il a posés de façon ultra résistante. Et bon, donc c'est magnifique ça, d'accompagner un agriculteur qui un peu seul se lance sur...
C'est un pionnier dans...
Oui, vraiment, agriculture de conservation, agroforesterie au cœur de la Beauce. Et donc là, c'est vraiment toute notre place de dire, en fait, c'est tellement courageux, c'est tellement puissant, en fait, de se lancer seul sur ton territoire, sur des dynamiques comme ça, que nous, on est très heureux de dire qu'on est avec toi et qu'on te soutient et que tu portes des valeurs qui nous importent très fort. Moi, ce qui m'importe, c'est nourrir l'humain et l'aider à se réenraciner et à se sentir intégré au cœur d'un écosystème naturel et humain. Une de mes plus grandes fiertés de l'année, c'est que je rends des enfants recouverts de boue chaque hiver, mais qui ont... C'est presque une transgression extraordinaire pour les enfants aujourd'hui d'être sales et boueux.
Des enfants et des arbres, ce n'est pas que des enfants qui plantent des arbres. C'est un projet de co-création où des humains tissent ensemble autour d'un véritable projet, à la fois de territoire, avec comme cœur la ferme, et un projet pédagogique pour faire pousser des jeunes, mais pas que, humains enracinés. Et des arbres. Le projet a fêté ses 4 ans le 14 mars. Et pour l'occasion, je suis allée rencontrer l'équipe dans ses bureaux à Paris. Sur la même période, une belle quatrième saison de plantation se clôturait. En 4 ans, l'association a organisé près de 330 projets dans 330 fermes, dans 53 départements, ce qui représente 14 000 enfants et environ 100 000 arbres bien enracinés, et surtout beaucoup de sens et de joie générés. Dans mon échange avec Marie-France Barrier, alias Marie Branche, directrice et fondatrice du projet, vous comprendrez que la manière dont elle accompagne le projet, avec soin, en co-création avec tout un écosystème humain, joue un énorme rôle dans le succès du projet. C'était super important pour moi de sortir cet épisode maintenant. Nous sommes le 30 avril et l'appel à projet de la saison 2024-2025 est ouvert. Que vous soyez agricultrice ou agriculteur, enseignant, enseignante, mécène, potentiel bénévole ou partenaire, vous pouvez vous engager dans le projet. Il suffit juste d'aimer l'humain et les arbres. Alors j'avais un gros rhume ce jour-là et je vous préviens, vous allez m'entendre renifler et me moucher. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je vous laisse maintenant en compagnie de Marie Branche. Belle écoute.
Dans Le Temps des arbres, paru en 2019, tu es partie à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour remettre l'arbre au cœur de nos vies. J'étais heureuse d'y retrouver Jack Delozzo. Quand j'étais prof en lycée agricole en 2013, j'avais emmené mes élèves en voyage dans le Gers pour le rencontrer. Sur le site de l'association Des enfants et des arbres, tu expliques que c'est en écrivant ce film que tu as ressenti comme une évidence que ton futur projet était de créer cet asso, pour passer de l'autre côté de la caméra et contribuer au changement. On a pas mal échangé lors du chantier de plantation sur la ferme de Franck Béchler, co-organisé avec 3 participants de l'EAV. Alors bonjour Marie-France et bienvenue dans le podcast.
Bonjour Opaline, merci.
Alors, comment tu vas en cette première journée de mars?
Je vais bien, je vais comme quelqu'un, un être vivant qui a très envie que le printemps arrive et que la lumière revienne et que la pluie cesse un petit peu et que autant que les sols qui ont besoin de réessuyer, j'ai beaucoup d'agriculteurs, nous aussi on a envie que la pluie cesse et qu'on puisse se reconnecter pleinement à la lumière du printemps.
Et tu me partageais tout à l'heure hors micro que des enfants et des arbres, c'est un projet intense. L'équipe s'agrandit régulièrement. Là, on est dans vos bureaux à Paris, en haut d'un immeuble, et en même temps, on entend les oiseaux. Il y a une plante énorme qui pousse dans le bureau là-bas. Il y a de la musique. Enfin, on se sent vraiment bien. Et du coup, déjà, merci de m'accueillir parce que je me sens tout de suite bien en arrivant. Même si on est à Paris, et ça, c'est super, je trouve. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'à Paris, on ne peut pas se relier au vivant, mais en fait, si, carrément. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe pour toi et ce qui se passe pour l'asso en ce moment ?
Eh bien, oui, alors des enfants et des arbres est en train de se rapprocher de la fin de la quatrième saison de plantation, dite scolaire et solidaire. Donc, je pense qu'il nous reste une vingtaine de plantations là, d'ici la fin du mois de mars. Et pour clôturer une campagne de 135 chantiers de plantation cet hiver dans 53 départements. Donc là, on est presque plus de 4000 enfants.
Wow.
Donc 135 agris. Voilà, donc une belle campagne et puis qui marque justement ce déploiement et cette mycorhisation qui se fait clairement d'année en année. On arrive à déployer un essaimage, à essaimer et avoir un maillage de plus en plus vaste et serré sur les territoires. Et donc voilà, c'est très joyeux parce que ce rêve que j'ai lancé, que j'ai semé il y a 4 ans en se disant allez, je pose ma caméra, je me réinvente et je vais au bout d'une autre réalisation qui ne sera pas audiovisuelle mais qui sera grandeur nature, humaine et avec des milliers de mains en coopération. Et ben, ça marche, le projet a pris vie et j'irai même au-delà de moi. En fait, je sens que un peu comme un enfant au départ, on est très fusionnel et maintenant je sens qu'il a sa vie un peu indépendamment de moi et de nous. Ça y est, il s'installe, beaucoup d'agris, de structures s'en saisissent et le prennent pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui doit au service de leur projet, de leur aventure humaine et agroécologique et en quoi ce projet peut les aider à la fois financer des projets, à la fois valoriser leur démarche et à la fois partager avec les gens du territoire. Et ça marche, donc c'est très intense parce qu'il y a beaucoup de projets à orchestrer, il faut animer tout ça. Ouais. Mais la densité du travail est compensée par la joie de faire et d'être au service de cet élan.
Et est-ce que ça te manque de faire des films parce que tu as fait Le Champ des Possibles que j'avais découvert, j'étais encore prof en lycée agricole et j'avais animé, co-animé un débat et à l'époque je savais pas du tout qui tu étais. Et puis Le Temps des Arbres, est-ce que ça te manque d'être derrière la caméra, enfin de l'autre côté?
Non, je pense que il y a... J'étais pas amoureuse de la posture de réalisatrice, alors c'est vrai que ce que j'aimais c'était de devoir enquêter, de réfléchir sur une problématique et d'essayer de trouver les briques les briques, en fait c'est les témoignages et les gens qui allaient m'aider à construire une réflexion. J'aime l'image, c'est vrai que j'aimais cadrer, j'aimais être dans l'action, mais je dois dire que faire des films, ça m'angoissait beaucoup. Enfin, je me sentais très en responsabilité par rapport aux gens qui me transmettaient leurs témoignages, leur image, leur parcours de vie, et ça me mettait. J'avais tellement le souci que et enfin le souci qu'ils soient heureux en fait de ce que j'allais faire, de leur confiance et de leur partage, que ça me mettait une pression assez folle et donc j'étais assez angoissée. Et donc là, d'être passée à une autre version de réalisation, parce que finalement, je trouve que c'est une réalisation, c'est-à-dire c'est co-réaliser, là, c'est faire avec et c'est faire une réalisation qui se partage à plein. Je pense que oui, des enfants et des arbres, ça m'apaise en fait. Je suis beaucoup moins stressée, je me sens plus à ma place. Et puis le fait que moi, ce qui m'importe, c'était de mettre en lumière les faiseurs et les acteurs. C'était d'être au service de cet élan, en fait. C'était ça qui m'importait beaucoup. Et là, finalement, c'est ce qu'on fait. Et puis, grâce à toute l'équipe de communication, là, parce que j'ai quand même cette notion de d'essaimer un message et de continuer à valoriser et faire savoir que il y a des agriculteurs, qu'il y a des dynamiques citoyennes, qu'il y a des élans vertueux qui se mettent en place, ça reste quand même le cœur de ma mission. Et donc là, il y a toute une équipe qui, pendant la saison de plantation, fait en sorte que chacune des plantations soit relayée par un plan média, un communiqué de presse. Et donc, chaque agriculteur a la venue de journalistes du coin, donc la PQR, c'est la presse régionale et locale, qui va valoriser localement que, les uns et les autres sont au service de cette dynamique agricole et au service du vivant. Et donc, l'essentiel qui est de transmettre pour moi est là. Et j'avais besoin aussi de m'appliquer à moi-même ce que je disais dans le film, dans les films, notamment là, dans Le Temps des Arbres. À un moment, je relayais cette étude qui disait qu'il faudrait planter 25 000 km de haies par an d'ici 2050. Que les acteurs sur le terrain en parvenaient à en planter 3 000 ou 4 000 par an. À l'époque, on disait que 11 000 continuaient d'être arrachés chaque année. Donc maintenant, on sait depuis avril dernier que ce n'est pas 11 000, mais c'est 23 000 km de haies qui continuent d'être arrachés ou qui dépérissent par an. Bref, et à l'époque, je m'étais dit, cette phrase de commentaire, en fait, je m'étais dit, je ne peux pas m'arrêter à juste passer cette info à des gens assis sur leur canapé et leur dire ça y est les gars, j'ai fait mon boulot, je vous ai transmis l'info, maintenant à vous de jouer, 25 000 km de haies par an, bon courage. Et vraiment j'ai eu ce sentiment que par ma place de réalisatrice mais aussi de géographe, parce que je suis géographe initialement, donc c'est vraiment mon ADN géographe, donc c'est aussi celui qui regarde de façon un peu panoramique comment fonctionnent les forces sur un territoire et là où il y a des connexions à faire ou des freins, enfin bon. Et donc j'avais cette vue panoramique avec l'idée que je voyais quels étaient les acteurs présents sur les territoires, les élans, les envies, que finalement j'avais le sentiment qu'il y avait tout déjà en fait sur les territoires, mais qu'il manquait parfois juste l'idée pour se mettre en connexion et créer en fait des synergies qui impacteraient, embarqueraient chacun. Et donc voilà, j'ai eu cette responsabilité de se dire je parle de ces 25 000 km de haies par an, je vais pas juste balancer ça comme ça sur les écrans, mais je vais me l'appliquer à moi-même et je vais essayer de prendre part à cet élan. Et c'est comme ça que Des Enfants et des Arbres finalement devient une courroie de transmission, pas plus, entre les acteurs du territoire pour qu'ils se mettent en lien et puis en donnant des moyens financiers, en donnant des outils pour que cet élan prenne vie et se déploie au plus vite.
Ouais, et ce que je trouve génial vraiment, et je m'en rends compte en t'écoutant, c'est que cette glomaline, donc la glomaline, c'est la glu du sol, c'est d'ailleurs, mes élèves, quand j'étais prof, m'appelaient glomaline, parfois je m'appelle opaline, et du coup, pour rigoler, ils m'appelaient comme ça, bref. Mais en tout cas, c'est ça un peu que fait Des Enfants et des Arbres, en passant par les enfants. T'aurais pu le faire autrement, T'aurais pu juste dire, bah, je crée une association qui fait des liens entre les citoyens, les acteurs, des financements, des techniciens, des arbres, etc. Et là, c'est des jeunes arbres qui sont plantés par des jeunes humains, futurs citoyens en herbe, futurs paysans peut-être, tu vois.
J'aimerais.
Et ce que je trouve génial, c'est que cette synergie qui est créée, elle est faite avec des enfants qui sont vraiment les premières personnes qui peuvent capter un message et l'apprendre vraiment au plus profond d'eux, quoi.
Oui, alors c'est vrai qu'il y avait vraiment cette idée, parmi les documentaires que j'ai fait il y a quelques années, j'avais fait un documentaire sur l'école de demain, et donc sur aussi les apprentissages, en fait, et sur la façon dont il fallait repenser la façon dont on fait pousser des humains. Donc en fait, il y a cette idée d'un logiciel commun entre comment on fait pousser les citoyens demain et comment on fait pousser la nourriture, hein, et c'est la même matrice qui veut qu'on ait des humains très alignés, très standardisés, très parfois prototypés, voilà. De la même manière que dans les champs, aujourd'hui, on fait pousser des maïs un peu clonés. Et donc, il y avait cette idée qu'il faut... C'est le même... c'est ça qu'il faut hacker, en fait. Il faut hacker le monde agricole comme il faut hacker le monde de l'éducation, en ramenant de la diversité, en ramenant du vivant, tant dans les classes que dans les champs. Donc il y avait cette idée que c'est le même enjeu. Et puis après, c'est vrai que en écoutant beaucoup d'agriculteurs, j'ai compris que finalement, parmi les freins, enfin j'ai ressenti que parmi les freins au changement et à la transformation des pratiques, il n'y a pas que des freins économiques, techniques ou juridiques. Il y a aussi des freins qui sont émotionnels, qui sont des freins liés à la loyauté par rapport aux parents. Se réinventer, c'est compliqué, en fait. Réinventer ces pratiques, c'est très compliqué, c'est périlleux, c'est vertigineux, en fait. Et d'ailleurs, à nos échelles d'humains, hein, qu'on soit agriculteur ou pas, quand il s'agit de remettre en question ses habitudes, ses certitudes, ses habitudes toxiques, on en a tous, plus ou moins, quand il s'agit de bouger ça, c'est toujours très compliqué. Et donc ce que j'ai, en écoutant des agriculteurs, parce qu'en faisant, préparant ces films, il faut toujours enquêter, écouter, et cette notion de... ce frein émotionnel au changement qui est à la fois par l'appartenance à une société, comme on faisait les parents, c'est pas facile en fait de tuer le père parce que on va transformer la façon dont il travaillait pour aller vers d'autres logiques, c'est compliqué. C'est pas facile de se lancer tout seul, partir pionnier quand tous les voisins font autre chose, c'est compliqué. C'est pas facile quand en plus on est très seul, puisque c'est la réalité du monde agricole, ils sont seuls beaucoup en fait, et en tout cas ils ont un sentiment de solitude. Et puis c'est pas facile quand on se sent un peu pointé du doigt par la société civile et qu'on se sent un peu acculé et mécompris. Et en fait, j'ai eu le sentiment que pour aller chercher dans cette dynamique des agriculteurs qui seraient peut-être un peu en dehors du spectre, enfin, qui ne se sentiraient pas attirés par des dynamiques agronomiques, biodiversité, vie du sol, mais en revanche qui seraient sans doute peut-être plus sensibles à cette notion de se reconnecter au territoire, se connecter aux humains, et que beaucoup avaient besoin d'ouvrir les portes de la ferme,
de transmettre
et de se sentir eux-mêmes revalorisés et reconnus dans leur chemin d'agriculteur, où qu'ils soient en fait dans son chemin de transformation. Et finalement, pour moi, les enfants, c'était une façon de leur tendre la branche et de leur dire en fait, on est avec vous. Moi, c'est vraiment mon sentiment de... Je sais combien c'est compliqué de se transformer, et donc finalement, si vous venez dans la démarche, non pas pour le volet agronomique, mais pour le volet humain, parce que finalement, vous avez besoin de vous relier au territoire, et que si ça apaise émotionnellement quelque chose, parce que vous vous sentez reconnu, entendu, regarder et écouter, eh bien, je pense que ça peut aussi apaiser un espace qui peut déverrouiller des cliquets un peu émotionnels. Et donc, pourquoi pas se dire, ah bah tiens, ça y est, j'ai planté parce que je voulais me remettre en lien avec l'école du coin, mais ah bah tiens, c'était quand même super sympa, j'ai pu inviter des gens, et puis tiens, pourquoi pas réenvisager quelque chose. Donc, je dois dire que finalement, les enfants, ils sont à la fois bénéficiaires à plein, parce que on peut parler de toutes les vertus de l'école du dehors, de la théorie qui se traduit dans l'action, et que des enfants tout boueux, c'est, je pense qu'une de mes plus grandes fiertés de l'année, c'est que je rends des enfants recouverts de boue chaque hiver, mais qui ont, c'est presque une transgression extraordinaire pour les enfants aujourd'hui d'être sales et boueux. Bon, y a des très bons scores en termes d'enfants gadoueux cet hiver. Donc il y a leur offrir ça, mais il y a ce en quoi aussi ils nous permettent d'accueillir dans la démarche des agriculteurs dans leur grande diversité.
Ouais, c'est un vrai terreau fertile pour des rêves, pour des transformations. C'est un accompagnement un accompagnement de plein de choses, en fait.
Parce que je pense que la réalité de ce que c'est la transition agroécologique, ça touche de cette histoire collective que l'on traverse, de comment on va se réinventer collectivement, en fait, c'est plein de couches qui sont des couches, en effet, liées à l'histoire, aux héritages, aux apprentissages, mais aussi aux émotions, quoi, en fait. Et à travers des enfants et des arbres, on travaille sur les émotions, on travaille sur la joie, en fait. C'est presque ce que je suis le plus heureuse de semer, c'est que tous les témoignages qu'on reçoit des agriculteurs ou des enseignants, bien sûr, on plante des arbres, mais finalement, on participe à créer des bulles humaines où il y a la joie d'être ensemble, de se rencontrer, d'être acteur, de se sentir utile, de se sentir entouré. Je crois qu'il n'y aura pas de transition agroécologique ou écologique tout court si l'humain, dans sa profondeur d'être, n'est pas remis au centre, en fait. Et donc, des enfants et des arbres essaient de contribuer à ça, quoi. C'est un projet d'amour, en fait, vraiment. Et donc, voilà, les enfants sont des activateurs d'amour, finalement, parce qu'ils arrivent là, ils ont été nourris par leurs enseignants et par tout ce qu'on essaie de leur mettre en place pour qu'ils comprennent pourquoi l'arbre, pourquoi ses vertus, pourquoi son génie. Mais finalement, ce qui se joue lors de plantation, c'est la joie. Mmh. Et la joie, c'est tellement puissant.
Ouais. Merci en tout cas de partager ça comme ça et puis de tenir la barque, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une équipe, tu délègues de plus en plus, mais tu es là tout le temps. Et tu dans cette course de fond, tu le disais tout à l'heure, donc merci de d'être là, quoi, Marie-France. Je me demandais, est-ce que tu pourrais nous partager quelques exemples, quelques anecdotes de fermes, de paysans, paysannes qui ont accueilli des projets, et pour voir un peu la diversité des profils et aussi des retours qu'il y a eu. Voilà, pour qu'on voit un peu la diversité des agricultures dans lesquelles vous vous impliquez.
Oui, alors c'est vrai que l'ADN, cette notion de diversité, elle est au cœur du projet, puisque je veux vraiment que ce soit un projet inclusif où on intègre tous les mondes agricoles dans la grande diversité, parce qu'aujourd'hui on fait grand discours sur le monde agricole, mais en fait il n'existe pas, en fait, ce monde agricole, c'est que une mosaïque de à la fois de production, parce que c'est vrai qu'entre un viticulteur de l'Hérault ou un éleveur bovin du Limousin, certes c'est des agriculteurs, mais c'est pas du tout les mêmes réalités, c'est pas le même métier, c'est
travailler avec... Ou même entre une ferme, enfin une exploitation agricole usine, puisqu'on peut dire ça aujourd'hui, où il n'y a même plus de paysans, et puis un petit paysan qui a 3000 mètres carrés, quoi. C'est pas du tout la même chose, quoi.
C'est pas du tout la même chose, et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une telle diversité de parcours de vie entre... Ouais. Les anciens ou ceux qui sont là depuis toujours, qui reprennent les fermes des parents, et ceux qui se lancent, cette relève néo-paysanne. Bon voilà, c'est la richesse des mondes agricoles. Donc on a tous ces profils-là et on a vraiment toutes les productions. Donc ça, on est très heureux, même de l'héliciculteur, donc producteur d'escargots, aux maraîchers, aux céréaliers, et j'aime à dire entre eux, on accompagne le petit bio et le grand conventionnel, mais aussi parfois le petit conventionnel et parfois le grand bio. Donc en fait, il y a cette grande diversité. Parmi les retours, il y a... En fait, il y en a tellement, parce que maintenant, en 4 ans, là, on a déjà organisé plus de 330 projets. Donc, en fait, il commence à y en avoir beaucoup. Mais il y a tous ceux qui reviennent pour plusieurs fois. Là, je pense, justement, là, si on parle des viticulteurs dans l'Hérault, Lionel Azin, qui était venu l'année dernière sur des enjeux liés à l'eau, au retour de l'eau. Et voilà, où ça s'est vraiment... très très bien passé, et en fait il a comment dire, je pense, pleinement saisi en quoi ça l'aidait à communiquer sur une dynamique qui est celle qu'il essaie de mettre en place sur son territoire. Il a créé une association qui s'appelle Les Résilients sur son territoire pour créer une dynamique vraiment de territoire pour que ces enjeux liés à l'eau, au paysage, à la fertilité deviennent vraiment une aventure de territoire. Et donc Des Enfants et des Arbres est devenu un outil au service de cette dynamique, et nous on est très heureux d'être juste un outil au service des aventures des uns et des autres. Et ce qui est génial, c'est que l'année dernière il était tout seul dans ce groupe, et cet hiver ils sont arrivés à 5, en fait ça a essaimé, en fait, et que les agriculteurs qui sont venus voir l'année dernière comment ça se passait, qui sont venus s'interroger sur, ou donner un coup de main à sa plantation, ont vu que c'est une parfaite occasion de mettre en lumière ce qui les préoccupe, parce que les médias étaient là, parce qu'on voit que les enfants sont au service, en fait, et qu'ils peuvent être et qu'ils sont en fait de très bons partenaires et de très bons planteurs quand ils suivent un petit peu la démarche qu'on les amène à l'itinéraire qu'on les amène à suivre, parce que les enfants comprennent pourquoi et comment. Donc là il y avait cette jolie déploiement sur son territoire. On a là récemment, j'en ai planté chez un grand céréalier au cœur de la Beauce.
C'était quoi comme... est-ce que tu peux nous dire aussi les genres de plantations, à quoi elles ressemblent?
Là c'était une haie, par exemple, chez Lionel Azin, c'était une haie pour justement... créer un peu de diversité, de relief, c'est vraiment ses enjeux. Lui, il avait cette... ces enjeux liés à l'eau, vraiment beaucoup, et puis à ramener un peu de biodiversité au cœur de ces vignes qui sont quand même des monocultures, et donc des déserts de biodiversité. Donc là, il y avait ça. Là, justement, chez Laurent Isambert, dans la Beauce, on est sur un projet agroforestier, donc là, c'est le genre de projet qui sont très inspirants, parce que j'étais à la plantation et on se retrouve au milieu, pour le coup, de ces grandes steppes agricoles, presque, avec pas un arbre, et on voit au milieu de l'horizon ces quelques alignements d'arbres qu'il a posés de façon ultra résistante. Donc c'est magnifique, ça, d'accompagner un agriculteur qui un peu seul se lance sur...
C'est un pionnier dans...
oui, vraiment, agriculture de conservation, agroforesterie au cœur de la Beauce. Et donc là, c'est vraiment toute notre place de dire, en fait, c'est tellement courageux, c'est tellement puissant en fait de se lancer seul sur ton territoire, sur des dynamiques comme ça, que nous on est très heureux de dire qu'on est avec toi et qu'on te soutient et que tu portes des valeurs qui nous importent très fort. Donc là, voilà, là c'est un projet agroforestier. On soutient beaucoup de projets en parcours volaille aussi, parce que c'est assez passionnant le parcours volaille, et en fait de transformer, d'aller plus loin que ce fameux élevage volaille de plein air, mais de ramener la poule dans son véritable écosystème forestier et lui ramener...
lui permettre de sortir de son bâtiment, parce que souvent elles ont leur parcours, mais comme elles ont besoin d'être à l'abri, moi qui suis passionnée des poules, il faut qu'elles aient des arbres pour aller dans la prairie, quoi.
Voilà, et là c'est vrai que ça, moi j'adore les parcours volailles, parce qu'en fait on comprend très vite que de remettre la poule dans son vrai écosystème, c'est à la fois donc enrichir son régime alimentaire. Souvent c'est des fruitiers qu'on va mettre, donc ça va lui amener des compléments alimentaires. C'est aussi faire qu'elle explore en fait l'espace qui lui est donné, et donc qu'elle ne va plus patauger dans cet espace autour du bâtiment avec toutes ces fientes, toutes ces en fait propagation de maladies, et donc moins de médicaments, donc en fait assez vite on voit la vertu de faire revenir, et là c'est souvent moins d'arbres que l'on plante, parce que c'est des arbres en intra-parcellaire, mais en fait la puissance de transformation pour le bien-être animal, pour la qualité de l'œuf, pour la qualité paysagère des projets, là il est vraiment très impactant. Donc ça, moi j'aime beaucoup ce genre de projet. C'est vrai que c'est des projets qui ont parfois du mal un peu à se faire financer, donc nous on est heureux d'accompagner ça. Et puis il y a tous ces projets de tout jeunes agriculteurs qui s'installent et dont les premiers gestes, alors qu'ils ont peu de moyens, ça va être planter des arbres. Et donc ça, nous on aime beaucoup beaucoup aussi. Notamment on a quand même pas mal de projets en lien avec Terre de Liens, et où ça se couple parfaitement, puisque Terre de Liens donc met à disposition ces terres à des nouveaux paysans avec ces enjeux, cette demande qu'ils mettent en œuvre des dynamiques agroécologiques. Et donc nous à la fois on vient leur financer leur première plantation, et quand on arrive sur un territoire, qu'on s'installe, en fait il n'y a pas de meilleur moyen de rencontre et de connexion à son territoire que d'inviter les enfants de la commune et d'inviter les parents d'élèves à dire voilà, bienvenue, je m'installe, mon premier geste c'est de vous accueillir sur la ferme pour que cette ferme soit la vôtre, que vous compreniez mon projet. Et donc là aussi, d'être au service de ces dynamiques là ça a tout son sens. Donc on est très heureux de cette diversité des élans.
Et est-ce que le fait d'être maman ça a contribué à créer cette association?
Ah oui, alors moi en plus je suis maman, je suis maman de deux enfants, mais dont d'une de ma fille qui a 17 ans et qui s'appelle Gaïa. Et donc je suis fille et mère de Gaïa. Clairement, des enfants et les arbres a été créé et pensé en lien avec... ce que je veux transmettre à mes enfants, ou ce que je veux transmettre. Donc il y a plein de transmissions, mais il y a cette notion de solidarité, d'engagement collectif, de prendre soin de Gaïa en fait, voilà, au sens large. Et c'est vrai que voilà, c'est ce qui m'anime depuis toujours, et ce qui je suis très contente, même si pour le moment, c'est pas comme s'ils avaient complètement saisi ce genre d'enjeu ou pas. Non, mais en tout cas, c'est aussi leur montrer la joie d'entreprendre, la joie de se mettre en lien, la joie de se lancer sur des projets et partir seul aussi. C'est-à-dire que, comme beaucoup de projets, on part seul sur un projet, enfin, sur une idée, sur un rêve qui vraiment... comment dire, bourgeonne dans l'intime, et puis qui devient ensuite un projet collectif, mais où c'est pas simple. Tu le sais toi-même, hein, sur ces projets, tous les projets que tu as menés, c'est pas simple, mais voilà, je pense qu'ils m'ont vu sur tout le chemin à pas lâcher, et j'espère qu'au moins ils garderont cette idée que rêver fort et de respecter et d'honorer ses rêves, c'est très important.
Tu partageais aussi hors micro que l'association petit à petit que tu as couvé pendant très longtemps, elle prend un peu son envol et que tu t'accroches pas au fait de contrôler cette association, que petit à petit elle a sa propre existence et que peut-être elle existera un jour sans toi.
J'espère. Ah, mais j'espère. Bah, j'ai vraiment le parallèle avec
un enfant
est évident. Où c'est vrai qu'au départ, j'étais très fusionnelle avec ce projet parce qu'il fallait vraiment le porter. Et là, je vois que c'est pour moi, des enfants et des arbres est une entité en soi. C'est-à-dire, c'est un organisme et il se trouve que la vie a fait que j'ai été dépositaire de ce projet, mais comment dire, je crois beaucoup à la co-création, c'est-à-dire que je pense que toute personne qui crée quelque chose, en fait, elle est, c'est pas elle qui crée, elle est co-créatrice, et qu'en fait, on est un peu choisi, voilà, comme un canal au service de quelque chose qui a envie d'advenir. Et donc, moi, je suis au service de cette entité, des enfants et des arbres, et donc... ma mission, là, c'est de faire en sorte que, en termes de valeur, en termes de place dans ce vaste écosystème agricole, on arrive à trouver notre place, qui est une place de trait d'union, puisque moi, je veux qu'on travaille avec tous les acteurs, avec tous les spectres qui sont très nombreux et qu'on arrive à être un point de rencontre et de réconciliation dans un monde qui, et on le voit très clairement en ce moment, qui est quand même très divisé et qui souvent on va pointer ce qui sépare plutôt que ce qui fait converger. Donc des enfants et des arbres est un endroit où on peut se rassembler à un moment, être vraiment sur nos points communs, au service des communs. Mais voilà, donc le boulot, ça va être de sacraliser ces valeurs et la raison d'être des enfants et des arbres, mais le but, c'est que ça vive un jour sans moi et que ça devienne un organisme équilibré, résilient, qui est en santé. Voilà, je vais pas m'accrocher à cette création, quoi, en fait. Il faut que chacun s'en saisisse, et d'ailleurs c'est ce qui se passe là à chaque plantation, en fait. Ça devient, nous on n'est pas sur les plantations, hein, sur les 135 qui se sont passées là, on va en vivre une petite dizaine, mais sinon ça se fait sans nous, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il faut que les gens se l'approprient, c'est leur aventure, c'est leur réussite, c'est leur réalisation sous ce chapeau, avec des valeurs et une philosophie commune qui est de coopération, d'espoir, de joie, de collectif.
Alors, j'avais une question. Pour qu'on comprenne un petit peu, on ne sait jamais, j'espère qu'il y a des fermes qui nous écoutent, qui auront envie peut-être d'organiser une plantation pour la prochaine saison.
J'espère.
Voilà. comment se passe une plantation? Ça commence par quoi quand une campagne commence?
Eh bien, ça commence par l'appel à projet qui est ouvert un peu avant chaque printemps, qui est disponible sur notre site. Donc, en fait, ce sont les agriculteurs qui candidatent. Donc, des agriculteurs qui veulent planter, donc une haie bocagère, un projet agroforestier, mais qui veulent que cette plantation soit l'occasion de créer un moment de convivialité, de partage, de communication, de rencontre. Parce que finalement, des gens qui plantent, il y en a beaucoup, beaucoup, donc, mais qui plantent de façon souvent un petit peu anonyme, ils plantent dans leur coin, Et voilà, nous, on veut que ce soit, enfin, notre proposition, que ce soit un peu un moment de fête. Donc, qui veut planter et partager, candidate sur notre site, donc c'est sur le www.desenfantsetdesarbres.org. Et dans les prérequis, chaque structure doit, enfin, chaque agriculteur doit candidater en lien avec une structure technique sur son territoire. C'est-à-dire un opérateur, un expert de l'arbre champêtre qui va venir accompagner l'agriculteur ou l'agricultrice dans la conception de son projet pour voilà, s'assurer que le projet il est bien calibré, ajusté, non seulement aux conditions pédoclimatiques de la parcelle, mais aussi aux attentes de l'agriculteur, puisque c'est vrai qu'en fonction qu'on veuille, je ne sais pas, freiner le vent du nord pour protéger ses animaux, ses cultures, ou qu'on veuille faire revenir la biodiversité, ou favoriser la vie du sol, ou
faire des
arbres fourragers, il y aura comme une autre prescription en arbres à chaque fois. Et donc, nous, on est pour que les agriculteurs ne s'auto-médicamentent pas,
ouais,
en arbres, si je peux me permettre ce parallèle, mais qu'il y ait ce temps de rencontre, d'échange au cœur de la parcelle pour concevoir un projet. Voilà. Donc ça, c'est notre prérequis. Il faut qu'il y ait un opérateur technique. Et puis après, sur le dossier de candidature, il y a un moment sur le partage des valeurs. Qu'est-ce qu'ils ont envie de partager avec les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter? Comment voilà. Et donc, il faut qu'on sente qu'il y a une convergence de désir de transmission. On est sur un dossier qui a été pensé avec et pour les structures techniques, puisqu'on essaie vraiment d'être au service tout le temps des acteurs du territoire, donc de ne pas leur rajouter de l'administratif, mais de faire quelque chose qui est à la fois gainant, parce qu'il y a besoin de poser des questions, et je dirais même pour les agriculteurs, se poser des questions, en fait, certaines questions, c'est élaborer un projet qui sera pérenne et réussi. Donc voilà, on essaie d'être dans le bon équilibre pour que ce soit juste ce qu'il faut pour s'assurer qu'on se lance tous dans quelque chose qui sera efficace. Et puis, une fois que le dossier est validé, ou je dirais même parallèlement, ce sont les agriculteurs qui invitent l'école à être partenaire du projet. Mmh. C'est-à-dire que sur le site, ils trouvent tout plein d'éléments pour aller inviter l'école et leur proposer le projet. Mais on veut vraiment que ce soit eux qui convient le territoire à les aider dans la mise en œuvre de leur plantation. Ça change tout, parce que, encore une fois, c'est leur aventure, c'est leur projet. Donc, c'est eux qui vont aller chercher l'école du village où il y a leurs enfants, et c'est, en général, ça va très vite, hein, parce que non seulement les écoles elles ont maintenant des obligations de faire entrer ces enjeux liés au dérèglement climatique, au climat, à la biodiversité dans les programmes, et même s'ils ont des éléments théoriques, ils ont très peu de propositions concrètes. Donc pour les établissements scolaires, c'est en général une grande opportunité et une aubaine, donc la plupart disent un grand oui très spontanément. Et puis, une fois que l'école a dit oui, bien nous, on la fait rentrer dans notre mécanique, on leur transmet des outils, des outils pédagogiques, des webinaires, pour qu'eux s'acculturent sur ces thématiques-là, et comprennent aussi la dynamique, c'est-à-dire que les enfants et les classes ne sont pas invités à une sortie scolaire. Ils sont invités à prendre possession d'une mission citoyenne et à comprendre qu'ils sont des contributeurs engagés au service d'un agriculteur, mais d'un projet collectif. Donc ça, on travaille avec les enseignants avec ça. Et puis, l'autre point, c'est que l'agriculteur s'engage en amont de la plantation, en général une semaine ou deux semaines avant, à se rendre en classe, donc ça peut durer 2 heures, pour venir se présenter, expliquer qui il est, quel est son métier. Voilà, je suis viticulteur, je suis céréalier, maraîcher. Qu'est-ce que c'est mon quotidien? Qu'est-ce que c'est son métier? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans ce métier? Qu'est-ce qui me passionne? fil des saisons. Enfin, voilà, il y a tant de choses à raconter. Quels sont mes enjeux, mes problématiques aussi? J'ai des problèmes liés à l'érosion de sol, j'ai des problèmes liés à des gels tardifs, j'ai des problèmes liés à la chute de biodiversité. Donc ça permet aux enfants d'avoir une illustration très concrète de ces grands sujets un peu abstraits du dérèglement climatique. C'est là, c'est quelqu'un vient dire, bah, moi, sur ma parcelle, à côté de chez toi, j'ai ces enjeux-là. Et pour répondre à ces mots, on a comme remède, parmi les nombreux remèdes, mais on a comme remède l'arbre qui va nous servir à ça, ça, ça. Et pour le mettre en œuvre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, les enfants, pour que ça se passe. Et toutes ces petites étapes, en fait, font que le jour où la plantation est fixée, où les enfants viennent, eh bien, ils viennent le torse bombé, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie de bien faire, parce que...
Ils se sentent vraiment dotés d'une mission, quoi.
Exactement. Ouais. Et ça change tout, parce que là, il y a cette idée qu'on n'a plus besoin d'usagers du monde. On n'a plus besoin de gens qui viennent consommer des sorties scolaires, mais on a besoin de gens et d'enfants qui se saisissent, qui sont acteurs et qui se saisissent de ces enjeux-là. Et en fait, j'espère que autant on essaie de valoriser les agriculteurs en leur disant on vous considère, on est à vos côtés, on sait combien on a besoin de vous et merci de vous mettre en mouvement et on est avec vous là sur cet élan. Mais de la même manière, il faut qu'on fasse pousser une jeune génération qui a confiance en sa capacité de faire bouger les choses et qui, à travers cette expérience de plantation, eh bien, voit son impact sur le paysage, ressent cette fierté d'aider quelqu'un dans son projet, de pleinement saisir pourquoi il est là. Et je pense que si on est un peu dans ce bazar-là collectif, c'est qu'il y a eu toute une génération, voire des générations, qui se sont dit « Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? Moi, je suis trop petit, je suis impuissant. Qu'est-ce que je peux changer à ce grand bazar ?» Eh bien, mon rêve, c'est que ces enfants, avec leurs petites bottes, leurs petits bras et leurs petits camarades, auront planté des arbres et donc des rêves en même temps et auront enraciné leur confiance dans le fait que je suis déterminant au monde, je fais la différence et que par chance ils verront ces arbres sur leur territoire se déployer et j'espère que leur confiance en eux grandira avec ces arbres et que ça en fera des citoyens qui auront confiance dans le fait que quand on se met en lien, quand on se met en collectif, on fait bouger les choses. Donc voilà, dans toutes les branches du projet, il y a aussi ça, faire pousser des citoyens qui ont confiance en eux.
Ça me parle tellement par rapport à l'école d'agroécologie voyageuse qui était dédiée à des personnes plus âgées, mais jeunes quand même. Et en fait, la principale chose qu'ils ont, avec quoi ils sont ressortis de l'école, c'est de la confiance, quoi. Et d'ailleurs, quand on écoute les témoignages dans certains podcasts que j'ai écoutés pour préparer l'épisode, d'enfants, on sent qu'ils sont pas, ils disent pas juste « bah ouais, je suis content, j'ai planté un arbre », on sent qu'ils ont compris quelque chose de vachement plus grand, quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous donner en chiffres une idée de combien de fermes aujourd'hui et combien d'enfants ont contribué à travers le projet ?
Eh bien, là, à la fin de la quatrième saison, on devrait être à 14 000 enfants qui auront planté l'équivalent de 90 000 arbres chez 330 agriculteurs.
Ok.
Voilà. C'est super, mais c'est en fait moi à la fois c'est magnifique et en même temps ça reste dérisoire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire que voilà, qu'on se déploie. Et c'est pour ça que c'est un peu cette... c'est à la fois, c'est merveilleux ce déploiement, mais les enjeux sont tellement énormes que moi, j'ai pas du tout ce sentiment de « Ok, on est arrivé, c'est génial. Il faut qu'on arrive à déployer, à démultiplier ces expériences de vie. »
Ben, je pense que le fait que vous ayez permis à 14 000 enfants de planter des arbres, c'est des graines dont on n'imagine pas du tout ce qu'elles vont devenir. Et ça, c'est pas évident de se dire, bah, en fait, même avec l'école d'agroécologie voyageuse, tu vois, elle est finie, mais on a semé tellement de graines qui vont rayonner. Et voilà, le projet est terminé et il y a d'autres choses extraordinaires qui se passent. Donc, c'est ce que j'essaye de me dire. Et en même temps, c'est super de rester là et de continuer à être nourri par la joie pour continuer à faire grandir ce projet qui, chaque année, est de plus en plus grand, quoi. Et alors, avant de te poser quelques dernières questions, j'avais envie de te demander si toi, tu aurais une question à me poser.
Oui, en fait, c'est surtout que moi, ce qui me... En te regardant et en te lisant... ce qui me plaît beaucoup dans ton approche, c'est cette approche très holistique, en fait, qui raccorde l'humain à l'humus. Voilà. Et donc, moi, je pourrais te demander de me parler de ce mycélium un peu humain, enfin, ou alors de ce que tu vois, justement, en voyageant de ferme en ferme. Qu'est-ce qui t'anime aussi dans cette humanité qui se déploie dans ces nouvelles initiatives paysannes?
Bah, en fait, tu as presque répondu à la question dans la réponse. Ouais. Pardon, tu as presque répondu à la question en me posant la question. C'est de voir les humains œuvrer en retrouvant cette place. Je disais ça hier soir, j'ai fait une petite visio pour les A d'Angers, en expliquant un peu ma vision du vivant et de l'agriculture, de voir les humains travailler sur eux pour en sachant pertinemment qu'ils n'arriveront pas à faire de l'agroécologie s'ils ne se remettent pas au même niveau que l'humus, justement. Et cet humus riche auquel on a besoin de se connecter. Et souvent, les plus beaux projets agroécologiques, on voit les paysannes, les paysans essayer de lâcher leur besoin de contrôle sur tout et retrouver leur juste place bénéfique pour apporter de plus en plus de vivants dans leur ferme, avec évidemment la conscience qu'ils resteront des paysans, des paysannes, et que donc, il y a toujours ce truc de coproduire avec le reste du vivant, de produire, d'être paysan et de devoir se tirer un revenu, et en même temps de laisser la place aux sauvages sans qui ils ne pourraient pas être paysan ou paysanne. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est de voir presque, j'ai l'image d'un humain qui serait en sauvage, tu vois, et de voir le bien que ça fait de prendre le temps de se relier au vivant, émotionnellement parlant, et de redevenir des jardiniers dans leur ferme, des jardiniers du vivant, et de juste catalyser des processus qui existent déjà sans eux, quoi. Et moi, ce qui m'anime aussi, et je pense que c'est quelque chose qui nous relie toutes les deux, c'est que, alors, ces derniers temps, j'étais très branchée agroforesterie, jardin, forêt, et petit projet, un peu de ferme, mais moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de tisser des liens entre tous les mondes agricoles. Et j'aimerais un jour faire un épisode avec un éleveur de porc intensif pour comprendre ce qu'il vit, ce qu'il traverse, et qu'il n'a pas forcément choisi profondément d'être là. Tu vois, et j'essaye vraiment de donner la parole à tout le monde, même si c'est un podcast sur l'agroécologie, et du coup, c'est bien de parler principalement d'agroécologie, mais aussi juste de pourquoi tout le monde n'en fait pas, quoi.
Oui, et je pense que c'est important de mesurer que c'est pas facile parfois de lâcher et de lâcher ce qu'on a appris, quand on est tenu par des prêts bancaires, quand on est tenu par des enseignements agricoles, quand on est tenu par la coopérative, ouais. Par tellement de chaînes. Et je pense que c'est important de le transmettre, parce que finalement, je pense qu'on perd beaucoup de temps dans cette notion de transition agroécologique, en stigmatisant ceux qui sont plus, pour qui c'est plus difficile que les autres à se mettre en mouvement, en fait.
Ouais.
Voilà, et donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut digérer, la tolérance, enfin, je veux dire, avoir une vision exigeante, inspirante, où là on veut aller, une vision, c'est important, mais il faut beaucoup de tolérance avec ceux qui sont pris dans la... dans le monstre du système, et que s'en décoller, c'est très compliqué, et que la seule moyen de les extraire de ça, eh bien, ça va être la bienveillance, la tolérance, et je trouve que c'est vraiment un ingrédient qui manque souvent, en fait, et que même les mieux pensants de l'agroécologie sont parfois aussi à prendre des lectures très polarisantes, et en fait qui emmène à contre-courant, qui freine en fait la transition plutôt que de la porter.
Et c'est ce que je trouve très beau dans l'assaut, c'est cette envie de planter dans tous les types de fermes, qu'il s'agisse de fermes ou d'exploitation agricole, peu importe comment on s'appelle, mais d'aller voir tout le monde.
Ben oui, parce que en fait, le cœur du projet, c'est l'humain, en fait. Hein. Et donc cette connexion entre humus, humanité, humilité, qui est notre devise, on plante des arbres pour prendre soin de l'humain. Voilà, c'est pour ça que je ne me serais pas du tout vue planter des arbres en milieu forestier, du tout. Moi, ce qui m'importe, c'est nourrir l'humain et l'aider à se réenraciner et à se sentir intégré au cœur d'un écosystème naturel et humain, en fait. Ouais. Et je pense que c'est vraiment cette notion de tout qu'il faut réconcilier, réharmoniser. Et que notamment, donc refaire venir de la tolérance, de la patience, c'est sans doute le meilleur des activateurs de changement.
Et alors toi, justement, Marie-France, comment est-ce que tu cultives ton enracinement et ton lien aux arbres? Est-ce que tu le pratiques régulièrement?
Oui, très très très. J'ai la chance de, même si on est dans le 15e, j'habite en banlieue, à côté d'un grand parc, et à côté duquel j'ai grandi, et il y a une forêt domaniale aussi. Et où j'ai des très bons potes, très bons potes arbres depuis toujours. Et j'ai donc tous les week-ends, enfin toutes les semaines, je vais faire des petites réunions, retrouvailles avec mes amis, mes frères, je dirais même. J'ai ce type de relation vraiment fraternelle avec... tous les arbres, avec le monde, le peuple des arbres, mais j'en ai quelques-uns qui sont vraiment mes frères et que je vais voir tout le temps pour à la fois leur demander de m'aider à me réaligner quand parfois je me sens secouée par la vie, par le monde. Je vais les voir pour leur demander de me transmettre, me réinsouffler de l'alignement, de l'enracinement. Et aussi parce que je vois l'arbre comme une antenne vers un au-delà, vers un invisible, vers quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et donc, je vais me brancher à ces arbres aussi pour aller chercher de l'inspiration, chercher des idées, de la clairvoyance. Enfin, essayer de cultiver ça entendre clair, voir clair, essayer de voir comment, où se poser, être souple, être tolérant. Pour moi, les arbres, c'est vraiment le modèle, c'est l'alter ego de l'humain, et c'est vraiment le modèle, l'enseignant du savoir-être humain et terrien aujourd'hui, en fait. Et donc, pour voilà, trouver ma place de dirigeante d'association, pour trouver, j'ai l'impression que c'est auprès d'eux que je trouve toujours les meilleurs conseils. Et donc, voilà, c'est vraiment, je cultive ça, et j'ai la chance d'être vraiment très en lien avec du vivant, même en étant à Paris. Et puis, en fait, c'est aussi une qualité de regard, c'est-à-dire que, enfin, un type de regard. Moi, depuis toujours, j'ai cette connexion, depuis que je suis enfant, j'ai cette connexion aux arbres. Et en fait, des arbres, il y en a partout, il y en a tout le temps, même en ville. En fait, si on a le regard qui s'affûte, et si on a la recherche de ça, eh ben, on peut faire des petits checks. Enfin, moi, je check beaucoup d'arbres au quotidien, que je vois dans toute leur beauté et toute leur humilité, parce qu'ils sont là, en fait, dans les paysages urbains, à amener, à accueillir des arbres, accueillir des oiseaux, accueillir, voilà, toute cette vie au cœur de l'urbain. Et en même temps, personne ne les voit en général. Enfin, voilà, c'est un peu comme du mobilier urbain. Mais moi, je les vois toujours comme des grands sages qui sont là et qui sont prêts à parler à ceux qui ont un peu encore un cœur d'enfant. Et moi, je pense que j'ai vraiment... Je vis dans un monde où les arbres nous parlent, où la nature nous parle, et j'essaie de les entendre. Donc, voilà, je crois que c'est une grande chance, en tout cas, d'avoir accès à cette autre dimension.
Comment est-ce qu'on peut aider des enfants et des arbres? Est-ce que pour ceux qui ont des sous et ceux qui n'en ont pas?
Bah, y a plein de façons d'aider. Je pense que pour les agriculteurs qui nous entendent, un grand bienvenue vraiment dans cette aventure. Rejoignez-nous, et en fait, grâce à vous, on va, voilà, semer de la joie, des arbres et du faire ensemble. Donc, il y a les agriculteurs, ceux qui ont un peu de sous ou beaucoup, bah, voilà, bien sûr, hein, tous ces projets, on les finance. Donc, pour qui voudrait nous soutenir mensuellement, ou voilà, il y a plein de façons. Sur notre site, on peut faire des dons. On a depuis peu une plateforme pour les bénévoles qui voudraient se mettre en lien avec les agriculteurs des territoires, et qui voudraient participer à créer ce mycélium humain sur les territoires, pour créer la solidarité auprès des agriculteurs, pour les accompagner dans l'entretien des haies qu'on va planter, parce qu'en fait, c'est bien planté, mais en fait, il faut entretenir, c'est souvent du temps, il faut repailler, il faut tailler. Donc on aimerait, au fil du temps, qu'autour de chacune de nos plantations se créent voilà, des petits tissus humains pour accompagner les agriculteurs. Donc voilà, il y a ça. Et puis, beaucoup de gens ont des talents divers qui peuvent être sur de la communication, sur de la photo, sur plein de choses. Et voilà, il y a ça. Et puis pour tous les enseignants aussi qui voudraient prendre part à l'aventure, eh bien, alors c'est vrai que nous, le point de départ, c'est souvent les agriculteurs, mais un enseignant qui serait super motivé, ben, il peut trouver un agriculteur dans le coin, parmi les parents d'élèves, au marché, le producteur du coin, à la MAP, pourquoi pas une ferme devant laquelle il ou elle passe régulièrement en disant « Tiens, il y a ce projet ». Et chaque année, on a des agriculteurs qui viennent parce qu'ils ont été sollicités par des enseignants hyper motivés. Donc ça, c'est absolument merveilleux, parce que c'est vraiment là la société civile qui va voir les agriculteurs, qui dire « On a envie d'être avec toi, on a envie de se mettre en lien avec, ouais, avec ton métier pour t'accompagner dans ce chemin. Est-ce que ça te dit d'y aller ?» Donc ça, c'est génial. Et puis il y a nous suivre sur les réseaux, nous soutenir et nous envoyer plein de bonnes vibes, d'amour, et déjà c'est beaucoup, et prendre soin de soi, en fait, parce que je veux dire, participer à des enfants et des arbres, c'est aussi participer à cultiver sa propre confiance en soi, en fait. C'est se dire qu'il y a plein de façons de participer à cet enjeu si global et holistique de ce qu'est la transition agroécologique. C'est déjà renouer avec la confiance en soi et la confiance en ses propres rêves, la confiance dans le fait que chacune des actions a une portée et un impact. Et donc, voilà, nous, on joue en équipe avec plein d'autres acteurs extraordinaires qui font plein de choses. On prend notre petite part humblement, mais voilà, une façon d'aider des enfants et les arbres, c'est juste de se révéler chacun dans sa mission et dans son talent. Et donc, en soi et en ça, on révélera l'humanité dont on rêve pour demain.
Merci beaucoup, Marie-France, pardon. Je suis tout émue. Mmh. Est-ce que tu aurais un dernier message à partager et peut-être un merci à dire à quelque chose, quelqu'un?
Oh, bah oui, je pense que la gratitude, c'est certainement la plus puissante des émotions à cultiver, à travailler au quotidien. Moi qui ai une lecture de la vie qui est très spirituelle, vraiment, qui me relie à beaucoup plus vaste que Gaïa. J'ai la gratitude d'être humaine aujourd'hui, malgré tous les défis auxquels on fait face. Je pense qu'on vit un moment passionnant et crucial dans l'évolution de la conscience humaine. Et donc, je pense que c'est une grande chance d'en être aujourd'hui. Un grand merci à des enfants et des arbres qui passent à travers moi et qui se déploient. Et un merci à tous les citoyens, à tous ceux qui aujourd'hui ont reçu le message et ont décidé de se mettre en lien avec nous. Donc ça, c'est merveilleux. Et donc, plus globalement, merci aux vivants qui pulsent à travers toi, à travers moi, à travers tous ceux qui écoutent aujourd'hui et qui ont eu l'envie de se relier à nous. Merci.
Merci beaucoup. Marie, merci Branche, pour les intimes.
Oui, voilà. Branchons-nous les uns les autres.
Les enfants font appel à toutes les compétences possibles et inimaginables. Bio, sport, entraide, travail d'équipe, pour le bien de tous, pour la communauté, donc ça permet de faire tout ça en même temps. C'est ça qui est super.
Il a déjà mangé de la terre, tu vois, il en a dedans, et puis il va passer par là dans son ventre, et puis après il va sortir derrière. Voilà. Il en mange beaucoup, hein. Il aime ça, tu veux le remettre dans la terre.
On essaie vraiment, nous, de s'inscrire dans le tissu social, et là, les enfants, c'est des enfants d'une école juste à côté, il y en a beaucoup qui viennent des villages d'à côté, ils ont emmené leurs parents. Donc c'est ça permet de retisser un petit peu ce lien entre la ferme et puis le local. Et puis bah, pour les enfants en plus c'est génial parce que ça leur montre un petit peu c'est quoi le travail à la ferme, qu'est-ce que ça prend de faire des chantiers comme ça. Ils mettent les mains dans la terre, donc on espère aussi ça quand ils repasseront d'ici 2-3 années, même dans 5 ans, 10 ans, ils pourront dire bah, c'est nous qui avons planté. Peut-être ça créera des vocations aussi.
Du coup, bah, là, on aide parce que les fermiers, ils peuvent pas tout faire. Donc, on les aide pour qu'on fasse 400 mètres de haies. Et ça va aider la nature. Surtout, planter des arbres, moi, j'avais jamais fait et j'avais jamais été à la ferme. Et c'est trop bien.
Plante des arbres pour protéger la nature, pour l'écosystème du monde.
Combien vous avez planté aujourd'hui?
800 oui.
Je vous invite maintenant à faire pause, le temps de 5 respirations. Prenez le temps de sentir ce que ça fait d'être en vie. Prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous ce que l'écoute de cet épisode a généré. Aujourd'hui, je reçois 400 euros par mois de dons grâce à vous, ce qui me permet de payer mes frais de logiciel et de déplacement. Je remercie du fond du cœur les personnes qui m'ont soutenue ou me soutiennent actuellement par des dons mensuels sur Tipeee. J'aimerais doubler ce revenu pour que le podcast et ma newsletter Le Mycélien ne soient plus une activité bénévole. Si vous pensez que cet épisode vous apporte une forme de richesse intérieure, de l'inspiration, et si vous souhaitez qu'il soit écouté par de plus en plus de monde, je vous invite à déposer une contribution financière, celle qui sera la plus juste pour vous, sur mon compte Tipeee. Le lien est en description de l'épisode. Un grand merci de la part d'Opaline, créatrice de ce podcast qui vous parle actuellement, et de tout le vivant.